Et je voulais ce matin parler justement comment partager un passage que j'ai lu récemment, qui se trouve dans deux Chroniques. Et on va lire, c'est le chapitre 20. On va lire, on ne va peut-être pas lire parce que je vois que le temps passe, donc pour épargner un petit peu, mais ayez vos Bibles ouvertes. Comme ça, vous pouvez parcourir et voir ce qui est dans le passage lorsque je vais en parler. Mais c'est un passage, vraiment un très beau passage. Et comme je disais, je le lisais il y a quelques semaines. Et encore une fois, ce passage me parlait. Encore une fois, ce passage me touchait et m'a encouragé dans la situation dans laquelle Cathy et moi se trouvons. Mais je pense que ce passage pourrait aussi vous encourager dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Parce que c'est comment faire face aux dangers, comment faire face à des défis qui sont là devant nous, comment vivre en tant que chrétien dans des moments difficiles. Je ne sais pas comment vous vivez des difficultés, comment vous vivez des épreuves. Des fois, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu te faire pour que cette épreuve me tombe dessus? Mais je pense que c'est une mauvaise façon de voir des épreuves. C'est une mauvaise façon de les comprendre parce que c'est vrai que des fois Dieu peut nous punir ou des fois les épreuves par lesquelles on passe sont le résultat des choix que nous avons faits nous-mêmes. Mais la plupart du temps, je pense que les épreuves sont là pour que nous puissions grandir dans notre foi, pour que nous puissions apprendre qui est Dieu, combien il est puissant, combien il peut prendre soin de nous. Et vous allez voir dans ce passage que justement le roi Josaphat apprend aussi à compter sur Dieu et comprend combien Dieu est puissant et peut répondre à la prière. Alors, j'ai choisi aussi ce passage parce que c'est le début d'une nouvelle année scolaire et souvent devant l'inconnu, on a un peu peur. Je ne sais pas ce qui m'attend cette année à l'école. Je ne sais pas ce qui m'attend cette année à la fac. Je ne sais pas ce qui m'attend cette année avec les enfants. Est-ce que les enfants vont réagir bien? Est-ce que ça va marcher bien avec la maîtresse? Comment ça va se passer? Et chaque fois qu'on est dans une situation, ou devant une situation que nous ne connaissons pas, très souvent, nous pouvons avoir peur. Nous aimons la sécurité. Enfin, la plupart des gens, en tout cas, aiment la sécurité, aiment savoir où on va et comment ça va se passer. Et souvent, on est quand même confronté à des situations neuves, et on ne sait pas comment ça va se passer. Et pour Cathy et moi, cette année, c'est encore une fois une année, Cathy parlait encore une année de transition, et dans un sens, c'est ça. L'an dernier, lorsqu'on partait, on se disait, mais mince, qu'est-ce qui nous attend? Comment ça va se passer? Cette année, on est en train de poser les mêmes questions. Je me souviens, il y a un mois ou deux, je disais à Cathy, est-ce qu'on a vraiment bien fait de choisir et d'aller dans le sud. Après tout, on a plein d'amis ici dans la région parisienne. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que nous avons choisi d'aller ailleurs? On aurait dû rester là où on est, là où on connaît. Mais je pense que des fois, c'est bien d'avancer vers l'inconnu, parce qu'on peut découvrir des choses de Dieu qu'on n'aurait pas connues avant. Alors, voilà. Le roi Josaphat est un exemple pour nous d'une attitude de foi et de confiance dans des moments difficiles. Il faut que j'explique un petit peu le passage. Le roi Josaphat, il avait désobéi à Dieu. Il est là au chapitre 19, et on en parlera dans un instant de ça, mais au chapitre 20, là où on est, il y a un danger. Voilà. La peur devant le danger. Et si vous ouvrez votre Bible, vous lirez 2 Chroniques chapitre 20 et verset 2, il y a une vaste armée qui vient l'attaquer, qui vient vers Jérusalem pour l'attaquer. Et je ne sais pas si comment vous êtes ou comment vous auriez été si vous étiez à sa place, mais voici cette vaste armée qui vient vers lui, et lui dit, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Et on lit au verset 3, et c'est tout à fait compréhensible, Josaphat prit peur. Je pense qu'il y a des situations qui nous font peur. Bah, c'était le cas pour Josaphat. C'était un roi qui devait mener son armée, devait commander son armée, il devait aller sur le champ de bataille. Et là, il a peur. Josaphat était considéré comme un des meilleurs rois de Judée. C'était un roi qui avait, dans la plupart du temps, avait écouté, avait suivi, s'était attaché à Dieu. Mais il avait au moins un incident dans sa vie. On dit que c'était lorsqu'il était devenu puissant et renommé, lorsqu'il avait une certaine gloire, qu'il s'est allié avec le mauvais roi, le pire roi du royaume du nord d'Israël, Achab. C'était un roi connu pour son injustice, un roi qui était connu pour son péché, pour son idolâtrie et pour tout ce qu'il... Il déplaisait vraiment à Dieu. Et pour une raison qui n'est pas expliquée, Josaphat choisit de s'allier avec lui et part à la guerre avec lui. Et lorsqu'il revient de cette guerre, Achab perd sa vie dans la guerre. Josaphat a failli perdre sa vie, mais finalement il échappe. Il revient à Jérusalem et il y a un prophète qui s'appelle Jéhu, qui a dit « Ce que tu as fait là n'était pas bon. Ce que tu as fait, le choix que tu as fait, n'est-il pas bon, tu n'aurais pas dû faire ça. » Et on voit dans 2 Chroniques chapitre 19 et verset 2, Jéhu lui dit, « Penses-tu qu'il soit juste de prêter ton concours à un homme malfaisant et de s'allier avec ceux qui haïssent l'Éternel? Parce que tu as fait ça, l'Éternel est en colère avec toi. » Et je pense que Josaphat, il revient à Jérusalem, il revient chez lui, et il se rend compte que l'Éternel est en colère avec lui. Et je ne sais pas comment vous êtes lorsque vous êtes conscient que vous avez péché contre Dieu. Lorsque votre conscience vous trouble et vous savez, là, j'aurais pas dû faire ça. Là, j'aurais pas dû agir comme ça. Et on a le sentiment que Dieu est en colère avec nous. On dit, mais mince, qu'est-ce qui va m'arriver? Et étant donné tout ce qui se passe, Josaphat aurait pu dire, bah tiens, cette armée qui vient maintenant, c'est à cause de mon péché, c'est à cause de ce que j'ai fait. Et peut-être c'était le cas. Mais ce qui est bien, c'est que dans cette situation, Josaphat, même s'il craignait le jugement de Dieu, même s'il craignait les conséquences de son péché, il se tourne vers Dieu. Et on voit dans les versets... dans les versets 3 à 13 du chapitre, que Josaphat a une bonne réaction. Il réagit bien. Souvent, lorsqu'on est conscient d'un péché, on peut se retirer de Dieu. On ne cherche pas Dieu, on se retire de Dieu. On s'éloigne de lui, on s'éloigne parfois de l'Église. On ne cherche pas le contact avec d'autres frères et sœurs. On s'éloigne, on s'isole, et on se dit, bah, de toute façon, Dieu est en colère avec moi, il n'y a rien que je peux faire. Et c'est exactement l'opposé qu'on devrait faire. Lorsqu'on est conscient de notre péché, ce matin, par exemple, la Sainte-Cène, des fois, on dit, bah, si vous n'êtes pas en une bonne relation avec le Seigneur, ne prenez pas la Sainte-Cène. Mais c'est justement la Sainte-Cène et l'occasion que nous pouvons régler des choses devant Dieu qui ont besoin d'être réglées. C'est pas une occasion de s'isoler de Dieu, mais c'est plutôt une occasion de s'ouvrir davantage à Dieu, de reconnaître notre péché, de reconnaître les fautes que nous avons faites, et de reconnaître que nous avons besoin de sa grâce, et de revenir à lui. Et l'occasion, la Sainte Cène est vraiment une occasion de faire la paix avec Dieu, et de se rappeler combien Dieu nous aime. Et donc, ici, on voit au verset 3 que, il consulte Dieu. Je comprends pourquoi je ne vois pas ça dans ma Bible, j'étais dans 1 Chronique. Et justement, au verset 3, il choisit de consulter Dieu. Il s'approche de Dieu. Il dit, ben, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu que j'agisse dans cette situation? Et il proclame un jeûne au verset 3 aussi. Il proclame le jeûne. Et tout le monde vient pour le jeûne à Jérusalem. Et le jeûne, c'est pas juste une occasion de prier davantage. Je pense que la raison que le jeûne était proclamé ici, c'était surtout, et vous verrez dans la Bible, lorsqu'il y a des moments de jeûne, c'est surtout pour s'humilier devant Dieu. C'est de dire, Seigneur, je veux me mettre à ton école. Je veux m'humilier devant toi. Je veux reconnaître qui tu es. Et je veux que tu sois mon maître. Et le jeûne, le vrai jeûne, c'est ça. C'est se mettre à part pour être à l'écoute de Dieu. C'est s'humilier devant lui et repentir des choses qui ont besoin d'être rejetées, des choses dont on a fait. C'est se s'humilier devant Dieu. Et donc, on voit le roi Josaphat qui prend ce temps pour s'humilier devant Dieu. Et d'un coup, ça donne à Dieu l'occasion d'intervenir. Ça donne à Dieu l'occasion d'être à l'œuvre d'une façon qu'il n'aurait pas pu faire si Josaphat ne s'était pas humilié de cette façon-là. Et donc, ils implorent aussi au verset 4, ils implorent le secours de Dieu. Et ils reconnaissent leur propre insuffisance pour se tourner et demander l'aide de Dieu. Et on voit dans la prière de Josaphat, dans les versets 6 à 12, ils reconnaissent qui est Dieu. Ils reconnaissent son autorité, ils reconnaissent sa sainteté, ils reconnaissent sa grandeur et sa puissance. Et dans cette belle prière qu'il dit dans les versets 6 à 12, on voit vraiment que Josaphat se tourne vers Dieu et reconnaît son autorité, reconnaît qui il est. Il reconnaît ses actions du passé, la façon que Dieu avait œuvré dans le passé. Et il dit, oui, je veux me rappeler de ces choses. Et c'est important pour nous, pour notre foi, de se rappeler comment Dieu a œuvré dans le passé. La Bible nous raconte comment Dieu était à l'œuvre dans le passé. Et c'est important pour notre foi de nous nourrir de l'œuvre de Dieu dans le passé. De nous rappeler combien Dieu est puissant. Et c'est important aussi de se rappeler dans notre propre vie combien Dieu a agi dans le passé. Des fois, à certains moments dans ma vie, j'ai pris le temps de garder un journal et de noter les réponses de la prière, de noter comment Dieu agissait. Et c'est vraiment quelque chose, c'est une discipline, il faut mettre du temps à part pour ça. Mais lorsque vous regardez en arrière et vous commencez à relire des pages des années précédentes, ah oui, j'avais oublié ça, ah oui, j'avais oublié ça. Et vous vous encouragez parce que vous voyez comment Dieu était à l'œuvre dans le passé. Après, Josaphat se rappelle les promesses de Dieu. Et encore une fois, c'est intéressant ce matin, j'étais très touché en écoutant la présidence, la première partie de notre culte ce matin, parce que je voyais plein de parallèles entre ce qui était dit pendant la présidence et ce que je savais que j'allais dire pendant le message. Et voyez, moi je ne vais pas souligner tous les parallèles, mais essayez de voir vous-même, rappelez des chants, rappelez des versets qui étaient lus, et voyez les parallèles entre ce que moi je suis en train de dire et ce qui était déjà dit ce matin. Et vous verrez que se rappeler des promesses de Dieu, Dieu est fidèle, et il tient ses promesses. La parole de Dieu est un livre de promesses de Dieu à notre égard. Et c'est important aussi de les connaître, parce que c'est comme ça qu'on peut prier que Dieu intervienne. Et donc, il se rappelle, Josaphat se rappelle les promesses de Dieu pour son peuple. Et ils expliquent devant Dieu la situation. La situation, c'était alarmant. Il avait cette armée qui venait, et ils exposent tout simplement devant Dieu le problème qui était là. Et ils confessent leur impuissance et leur dépendance sur lui. Alors, de quoi avez-vous peur ce matin? C'est peut-être une nouvelle année scolaire, comme j'ai dit. Peut-être que vous faites des soucis pour vos enfants. Peut-être que vos enfants ne sont plus à l'école, mais vous faites quand même des soucis pour vos enfants. Comment est-ce qu'ils vont vivre cette année? Qu'est-ce qui va se passer dans leur vie? Est-ce qu'ils vont trouver un bon travail? Est-ce qu'ils vont être contents avec ce qu'ils font de leur vie? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose d'utile? Est-ce qu'ils vont... Enfin, il y a plein de choses qu'on peut se demander pour les enfants, n'est-ce pas? Ou pour nos époux ou épouses, pour ceux que nous aimons, les autres membres de nos familles, peut-être vous avez des soucis pour eux. Vous avez peur pour leur avenir. Peut-être vous avez peur pour votre propre avenir. Mon boulot ne me plaît pas, mais je ne vois pas trop comment à trouver quelque chose de plus intéressant. Ou peut-être vous êtes au chômage maintenant et vous ne voyez pas comment trouver un travail. On peut avoir plein de peur. Hein. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'avais peur qu'il avait des monstres sous le lit. Je ne sais pas si vous avez eu des peurs comme ça. Bon, après, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de monstres sous mon lit. Mais à un moment donné, je pensais qu'il y en avait. Mais lorsqu'on grandit, les peurs aussi, des fois, grandissent aussi, n'est-ce pas? Deviennent plus conséquentes, plus importantes. Et c'est important de les soumettre à Dieu, de les remettre entre ses mains, de lui dire, Seigneur, je te fais confiance, comme disait Cathy. Je te fais confiance pour l'avenir, je te fais confiance pour ces choses qui me font peur. Parce que moi, je suis incapable de gérer cette situation. Je suis incapable d'agir là. Moi, ça me dépasse. Je ne peux pas faire quoi que ce soit. C'était la même chose pour Josaphat. Cette situation, cette armée qui venait s'avancer vers lui, c'était trop grand pour lui. Vous avez peut-être peur de rencontrer Dieu. Ce matin, je ne sais pas comment est votre relation, si vous êtes même en relation avec Dieu. Est-ce que vous avez donné votre vie à lui? Peut-être que vous avez peur de la mort, peur du jugement de Dieu, peur de, être face à face avec lui. Et vous dites, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Et ce matin, c'est une occasion de régler cette situation, de lui dire, Seigneur, je m'humilie devant toi, je confesse mes péchés, et je reconnais ton autorité dans ma vie. Et ce matin, c'est peut-être une occasion de faire ça. Mais pendant que nous avons le temps, consultez Dieu dans la prière lorsque vous êtes devant des situations inconnues, difficiles. Reconnaître sa sainteté et son autorité. Humiliez-vous et repentez-vous devant lui. Reconnaissez votre propre impuissance. La question de péché, on ne peut pas régler ça nous-mêmes. Je ne sais pas, on peut essayer de mener une vie aussi sainte qu'on peut. Ça ne règle pas le problème des péchés que nous avons même déjà commis. Même si vous ne commettez plus aucun péché dans l'avenir, il y en a déjà dans le passé, je pense. Et comment régler ça? Comment résoudre ces problèmes-là? Alors, remettez-vous à Dieu. Rappelez-vous ses promesses. Que nous sommes sauvés par la grâce à Christ, et grâce au sacrifice de Christ à la croix. Que c'est par foi que nous sommes sauvés. Et ça, c'est un don de Dieu. Rappelez-vous que Dieu vous aime et il veut être en relation avec vous. Et rappelez-vous des promesses de Dieu et saisissez ces promesses pour vous. Ah oui, c'est bon pour les autres, mais pour moi, je suis un cas un peu spécial. Non, les promesses de Dieu sont pour tout le monde, si on veut bien les saisir. Alors, comment est-ce que Dieu a répondu à la situation? Il avait un prophète, et la première chose, c'est que le prophète a rappelé aux gens, a rappelé au peuple, a rappelé au roi, ne craignez rien, et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Oui, Dieu les rappelle que lui aussi est touché, concerné par ce qui se passe. Et il est concerné, il est concerné par ce qui se passe dans votre vie aussi. Rappelez-vous lorsque Saul, qui est devenu après l'apôtre Paul, lorsque il allait à Damas pour persécuter les chrétiens, Christ s'est révélé à lui et lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ça dit pas pourquoi est-ce que tu persécutes des chrétiens. Il disait pourquoi me persécutes-tu dans Actes chapitre 9 verset 4. Jésus se sentait concerné par la persécution, se sentait concerné par ce que vivaient les chrétiens à ce moment-là, et il se sent concerné pour votre situation aujourd'hui. Il vit autant que vous. Verset 17, Dieu dit, vous n'aurez même pas à combattre contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Ils avaient une démarche à faire. C'était une démarche de foi. Ils devaient avancer, mais ils n'avaient pas à combattre. Et je ne sais pas comment Dieu va agir dans votre situation, mais Dieu a déjà la solution pour vous. Il a déjà fourni la solution pour notre plus grand problème, le péché, et il a la solution pour vos problèmes aussi. On voit la réaction du peuple, et on ira rapidement. Mais au verset 18 et 19, nous lisons « Josaphat tue Juda, et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. » C'était un geste de louange. Prenez le temps de louer, d'adorer Dieu. Prenez le temps aussi, encore une fois, de s'humilier devant lui. Se laisser tomber devant lui. Et ils ont chanté avec une voix forte les louanges de Dieu. Mais la louange n'est pas tout. Ils ont obéi aussi. Le lendemain matin, ils se sont levés et ils ont obéi à Dieu. C'était une obéissance rapide, immédiate. Ils n'ont pas discuté, qu'est-ce qu'on va faire? Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? Non, ils ont obéi à Dieu, ils ont fait ce que Dieu leur demandait de faire. Ils se sont levés et ils ont allé pris leur place sur le champ de bataille. Et au verset 20, il y a quelque chose vraiment intéressant, c'est pas sur l'écran, mais au verset 20, c'était au moment qu'ils commençaient à louer Dieu que Dieu a fait en sorte que l'armée qui avançait vers eux se sont attaqués eux-mêmes. Et les soldats se sont attaqués et ils ont fini par se massacrer les uns les autres. Et donc, ils avaient rien à faire. Et ils étaient là peut-être dans une situation qui, comme j'ai dit, est-ce que vous aurez fait comme eux? Vous avez une armée, une grande armée qui vient vers vous. Vous vous sentez impuissant. Et ce que vous faites, c'est envoyer la chorale devant l'armée en chantant les louanges de Dieu, en disant, voilà, c'est une stratégie, une bonne stratégie pour la guerre. On va envoyer des chanteurs devant nous, et comme ça, on va gagner la guerre. Non, c'est pas une stratégie normale. Mais là, au moment qu'ils ont commencé de louer Dieu, Dieu a commencé à intervenir et agir. Et nous avons besoin d'apprendre ça aussi. De faire confiance à Dieu et de le louer même avant qu'on voit le résultat, même avant qu'on voit comment Dieu va agir, de le louer pour qui il est, de louer Dieu pour sa capacité de prendre soin de nous. Et encore une fois, l'armée ne savait pas comment Dieu allait intervenir, mais ils ont loué Dieu en allant dans la bataille comme ça. Ils ont manifesté leur confiance en Dieu par leur louange. Et comme j'ai dit, verset 22. Au moment, Dieu est intervenu. Au moment qu'ils ont commencé à louer. Et combien nous avons besoin de prendre ça pour nous. Devant des situations qui nous dépassent, de dire, oui Seigneur, je te loue, je te fais confiance. Et comme ça, la louange est vraiment un acte de confiance, c'est un acte de foi. Ils ont pu ramasser un butin énorme. Ça leur a pris 4 jours pour ramener toutes les richesses de ces armées à la maison. Et à la fin, ils sont rentrés à Jérusalem dans la joie. Ils avaient même pas besoin de lutter, de combattre. Et ils ramènent à la maison une grande victoire. Une victoire gagnée, l'ennemi défait. Le peuple de Dieu délivré. Et Dieu est glorifié. Oui. Et ce matin, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce passage? Pour plusieurs raisons. Pour vous encourager à vous confier à Dieu. Pour m'encourager moi aussi à me confier à Dieu. Parce que devant des situations qui me dépassent, je dois lui faire confiance, comme disait Cathy encore. Et devant des situations qui vous dépassent, je vous incite, je vous encourage à vous confier à Dieu. Encore une fois, pour votre salut, si vous ne vous sentez pas en relation avec Dieu, donnez-lui le contrôle de votre vie. dites-lui, oui Seigneur, je voudrais bénéficier de tes promesses. Je voudrais devenir un de tes enfants. Je voudrais te connaître comme un père qui prend soin de ses enfants. Alors confiez-vous à Dieu. Si vous avez marché avec le Seigneur depuis des années et des années, confiez-vous encore à Dieu. Faites-lui confiance pour ce qui se passe dans votre vie. Je voudrais aussi vous aider à voir que les difficultés, les dangers, des moments d'épreuve ne sont pas là pour nous abattre, mais plutôt pour nous aider à grandir avec Dieu. Vous imaginez la leçon sur la foi que Josaphat et les autres dans cette armée ont appris ce jour-là. Oui, Dieu tient ses promesses. Dieu agit, Dieu est puissant. Oui, je l'ai vu de mes yeux. Et donc, je voudrais vous encourager à voir les difficultés des fois différemment. De ne pas voir ça comme un jugement de Dieu ou quelque chose que Dieu veut vous abattre. Il veut vous élever, il voudrait vous faire grandir dans la foi. Je voudrais vous encourager aussi devant au seuil de cette nouvelle année scolaire de lui faire confiance pour la vie de l'Église. Je ne sais pas trop comment tout passe dans l'Église. J'ai eu des échos, j'ai parlé avec Nicolas de temps en temps cette année. Je sais qu'il y a eu à certains moments des difficultés, des moments d'épreuve. Mais nous pouvons faire confiance à Dieu. Pour la vie de notre Église aussi. Il dit, ben oui, le Seigneur est fidèle dans le passé. Je sais qu'il sera fidèle dans l'avenir aussi. Je sais que Dieu est un Dieu qui est à l'œuvre. Ce n'est pas un Dieu qui chôme. Il est un Dieu qui est à l'œuvre. Il est à l'œuvre aujourd'hui. Et je voudrais vous rappeler ça. Je voudrais vous encourager à vous rappeler. Dieu est à l'œuvre pour vous. Il est à l'œuvre pour vous. Et il pense à vous constamment. Il voudrait vous transformer à l'image de son Fils. Et les épreuves nous permettent d'être transformés à l'image de Jésus-Christ. Les épreuves nous permettent de grandir encore une fois dans la foi. Il voudrait vous faire progresser dans votre relation avec lui et d'expérimenter de nouvelles choses. Vous dites, oui, ça fait des années que je marche avec Dieu. J'ai lu la Bible maintes fois. Mais je sais que vous n'avez pas tout appris. Vous ne connaissez pas Dieu complètement. Nous avons toute l'éternité pour mieux comprendre qui est Dieu. Et je pense que ça va prendre toute l'éternité pour saisir et apprécier l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Oui, l'éternité ne va pas être ennuyante. On ne va pas dire, oh, maintenant j'ai compris, voilà, c'est bon. Bon, ça peut s'arrêter maintenant. Non, ça va être une découverte, une découverte, une découverte, une découverte. On va apprécier de plus en plus l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la sainteté de Dieu, la perfection de Dieu. Oui, ça va être un temps, entre guillemets, merveilleux. Parce qu'on va découvrir Dieu dans toute sa plénitude. Il voudrait vous relever. Il voudrait que vous ayez une nouvelle révélation de Dieu. Alors, je ne sais pas quels dangers, quelles difficultés, quelles épreuves sont là devant vous, mais j'ai la ferme conviction que Dieu va vous défendre et va combattre pour vous si vous lui faites confiance. Ce n'est pas par votre force, c'est par l'Esprit, dit Dieu. Son esprit. Et vous savez, au verset 26, cette vallée où avait cette bataille, entre guillemets, où ont eu lieu cet incident, est devenue, enfin, a reçu un nouveau nom. C'était appelé, après ces moments-là, la vallée de la louange et la vallée de la bénédiction. C'était la vallée où ils auraient pu connaître la pire défaite dans leur existence. Ils auraient pu être balayés de la surface de la terre. Mais au lieu de ça, l'endroit qui aurait pu être le plus tragique, le plus noir, est devenu la vallée de la louange et la vallée de la bénédiction. Et c'est la même chose dans nos vies aussi. Les moments les plus sombres peuvent devenir pour nous des vallées de bénédiction, des vallées de louange. Et c'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Je vais m'arrêter là. Et je vous remercie encore une fois pour votre amitié, pour le soutien, pour vos prières et pour tout ce que la relation que nous partageons ensemble. Que Dieu vous bénisse.